بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc mes chers frères, alhamdulillah, nous reprenons ce programme sur les grands signes de la fin des temps, et on s'était arrêté avant la trêve de décembre janvier sur l'histoire de Ya'juj ou Ma'juj, de Gog et Magog. Et juste pour récapituler légèrement, pas trop, comme notre ami Rachid n'aime pas qu'on récapitule, mais il est parfois nécessaire de resituer un petit peu le contexte. Pourquoi est-ce que là, on ne va pas démarrer directement avec l'endroit où le mur a été construit, hein. Ce sera un petit peu nouveau pour quelqu'un, une personne qui n'a pas écouté les programmes depuis le début. Donc théoriquement, la thématique du jour, c'est d'essayer de déterminer où est-ce que Dhulqarnayn a construit ce barrage, ce mur, cette muraille, comme on pourrait l'appeler, pour protéger cette population qu'il avait sollicitée contre les Gog et les Magog. Maintenant, pour resituer un petit peu le contexte, comment est-ce qu'on est arrivé à là, il faut se souvenir qu'on avait démarré les grands signes de Qiyama avec la venue de Al-Mahdi. On avait ensuite parlé de Ad-Dajjal. Et lorsqu'on a parlé de Dajjal, on avait vu simultanément le retour de Isa alayhi salam, car Isa alayhi salam a un rôle immédiat, a un rôle essentiel dans la lutte, dans l'extermination de Dajjal. Et lorsqu'on voit la vie de Isa, du retour de Isa alayhi salam, on voit également qu'il y a une relation directe avec la venue de l'imam Mahdi. De quelle façon? La relation entre Isa alayhi salam et Al-Mahdi. Rachid, comme quoi ça sert quand même de récapituler, oui ou non? D'accord. L'intérêt de revoir, c'est bon, se resituer un petit peu, parce qu'il y a un fil conducteur. Vous savez, les grands signes de Qiyama, comme on l'avait dit maintes et maintes fois, c'est pas un événement, c'est pas un micro-événement. Je ne sais pas si ça s'appelle un macro-événement, ou c'est un événement important qui signe la fin des temps. Vous savez, tout comme la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un événement essentiel qui signifiait la fin des prophéties, qui signifiait la fin des révélations, il y a la fin des relations directes entre Allah Azza wa Jal et ses créatures, par la venue du dernier des prophètes, par la révélation des derniers versets du Coran et par la révélation de la dernière des religions, c'est-à-dire les derniers messages avaient été délivrés par Allah Azza wa Jal à l'attention de l'humanité, à l'alamin, tout ce qui existe en dehors d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste particulièrement sur les signes de la fin des temps, parce qu'on avait vu en introduction que c'était le prophète qui avait reçu le plus de ilm. Si on pouvait éteindre les ventilateurs, ce serait bien. Si quelqu'un peut éteindre, parce que la voix se disperse et c'est difficile de parler. Donc, le prophète alayhi salat wa salam était le prophète qui avait reçu le plus d'informations de la part d'Allah Azza wa Jal concernant les signes de la fin des temps. Plus que Isa alayhi salam lui-même, alors que Isa alayhi salam, c'est lui qui sera présent et qui aura un rôle direct avec ces trois autres grands signes comme on était en train de l'expliquer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il annonce qu'à la fin des temps il y aura tel événement, c'est pour que l'humanité réalise que on va passer à l'état du monde actuel, le monde de vivant, au retour auprès d'Allah. Et ça, c'est le but pour lequel on a été créé. On a été créé pour faire l'adoration d'Allah Azza wa Jal et enfin pour retourner vers lui. L'objectif de la création de l'homme, c'est « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Au moins, ça, c'est bon. Allah a créé les djinns et les êtres humains uniquement pour faire son adoration. Et l'aboutissement, ça, c'est le but. L'aboutissement de cette adoration, c'est Wattaqo yawman. Il manque le verbe. Wattaqo yawman turja'un fihi ila Allah. En ce sens, craignez ce jour où vous serez ramené vers Allah. Ça, c'est l'aboutissement du ibad. Et donc, quand on passe du cycle de la création, des créations, au cycle suivant, qui est le cycle final, parce qu'il y a trois cycles, on pourrait dire, de la vie. de la création dans le subhanallah, dans le monde, je sais pas comment on peut appeler ça, de le alam, il y a trois cycles. Il y a le cycle où Allah Azza wa Jal était seul. Wa kana 'arshuhu 'ala al-ma. Il n'y avait aucune créature. Il y a le cycle où Allah Azza wa Jal a créé des makhluqat et chaque créature a un but, a une mission. La mission des anges est différente de la mission des êtres humains, est différente de la mission des animaux qui eux aussi ont une mission sur la terre. Et la troisième étape, on va dire qu'il y a l'étape intermédiaire où la vie prend fin, toute forme de vie prend fin, et quand on dit toute, c'est même la vie des malaïka. J'avais posé une question à des élèves à la madrasa, on étudiait donc les piliers de la foi, et Iman bil malaïka. Je posais la question, on avait vu le nom des différents, le nom ou alors les anges, on avait cité les grands anges qu'on appelle, en français on appelle des archanges, on va appeler en arabe les muqarrabin, les anges qui sont proches d'Allah Azza wa Jal, dans certaines versions on parle de kurubiyun. Parmi ces anges, il y en a ceux qui portent le arsh d'Allah Azza wa Jal. Ils sont combien? Thamaniya. 8. La question qu'on avait posée aux élèves, c'est lorsque l'ange Isra, comment? Non, Isra, fil, alayhi salam, souffle dans la trompe le jour de Qiyama, pour la fin de la création, est-ce que ces anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal, ils restent vivants? Est-ce qu'il y a une exception pour eux? Les élèves ont dit que oui, parce que sinon qui va porter le trône d'Allah? Ils disent, ben justement, non. Ces anges sont missionnés pour porter le trône d'Allah, mais Allah, il est indépendant, il n'a pas besoin d'eux. Et là, on voit le décalage qu'il y a entre la lecture des choses de l'être humain avec son cerveau, qui est basé sur l'entendement, sur as-sam' et ru'ya, ce que je vois, ce que j'entends, et ces informations vont dans le cerveau, on cogite, on fait un milchèque, et il y a un natija, il y a un résultat, il y a des thèses. Ça c'est aql, ça c'est la logique humaine. Mais quand cette logique humaine veut comprendre l'organisation d'Allah Azza wa Jal, la logique humaine est vitement dépassée. Quand on pense qu'Allah est le nourricier, Allah accorde le rizq à toute créature, que ce soit la baleine, que ce soit, subhanallah, le nombre de créatures qu'Allah seul il sait, ou même des planctons, la vie microbienne, eux aussi ils ont leur risque. Là, la logique humaine, elle cale. Réalise qu'on ne peut pas comprendre le fonctionnement de la création d'Allah. Maintenant, n'en parlons plus, si cette logique humaine essaie de comprendre, a'udhu billah, le fonctionnement de l'au-delà. Cette logique humaine ne peut même pas franchir un palier. Comprendre comment les anges sont gigantesques, comment Allah les a créés, qu'il y a des anges depuis qu'Allah s'est établi sur le trône, ces anges sont en sujoud, en sujda jusqu'au qiyama et ainsi de suite. Et combien de milliards, il n'y a pas de chiffre humain pour quantifier le nombre de malaïka. Là, on ne peut même pas franchir un palier. On n'a même pas le droit d'essayer même de comprendre le monde de l'invisible avec la logique humaine. Autrement, on peut même perdre l'iman. Oui, non. Quelqu'un peut se dire que c'est impossible. Et là, c'est ton iman est en danger. Non, Allah ne t'a pas demandé de comprendre comment il a tout organisé. Parce que c'est le créateur qui organise. La créature, il va comprendre juste ce qui est perceptible par ses cinq sens. D'accord? Maintenant, l'étape au-dessus, subhanallah, c'est si l'être humain essaie de comprendre comment est le créateur, ça c'est interdit même. D'accord? Donc, quand on parle des anges qui portent le trône d'Allah, Si vraiment, vous voyez, il y a des groupes de personnes hein, dans l'analyse, dans la compréhension, on sort du sujet mais on reste dans le sujet de dîn, ils essaient de comprendre les attributs d'Allah Azza wa Jal par le biais de al-aql, la compréhension. Et donc il va dire qu'on ne peut pas dire qu'Allah se met en colère, par exemple, al-ghadab. Il va dire qu'on ne peut pas dire qu'Allah se met en colère, pourquoi? Parce que la colère, c'est un sentiment humain. En arabe, on va dire al-yan al-qalb, c'est le cœur qui... On pourrait dire ça, qui est en train de bouillir, hein, bon, le terme arabe, c'est en train de hein, une ébullition, oui, mais bon, en français, ça passe pas. D'accord? C'est le cœur qui s'emballe un petit peu, qui n'accepte pas, qui est frustré et qui va manifester son mécontentement. Donc, ils vont dire, on va pas dire qu'Allah se met en colère, parce que ça, c'est un sentiment humain. Mais on ne réalise pas que le mot qui est utilisé, on appelle ça en arabe lafz mushtarak, un terme commun. Pour que l'être humain comprenne le message, mais la réalité, laïsa kamithlihi shay, il n'y a rien qui ressemble à Allah Azza wa Jal. Mais pareil, quand plein de gens disent que tel sifat, on ne peut pas dire ça appartient à Allah parce que ma yali rubihi et ainsi de suite, mais pensez juste que les anges qui portent le trône, le arche d'Allah Azza wa Jal, si on essaie de comprendre ce, en guillemets, ce fonctionnement uniquement par la logique humaine, on se dit que ben, si l'ange Israfil, cette fois-ci c'est bon, alayhi salam souffle dans la trompe et que ces anges meurent, qui va porter le trône d'Allah? Et là on comprend que ça c'est ma logique ça. De même, hein, quand et puis c'est plus loin encore qu'il y a des gens qui refutent al-istiwa, qu'Allah s'est établi mustawa ala al-arsh. Ils disent que non, ça c'est pas possible parce que si Allah il est sur l'arsh, ben quand il descend, il n'y a plus personne sur l'arsh. Ça c'est aql insani qui interprète comme ça. Dit on peut pas dire qu'Allah est là et Allah. Mais quand tu dis qu'Allah est sur le trône, c'est une manière de s'exprimer. C'est un langage humain, c'est des mots, verbes, sujets, compléments. Mais la haqiqa, la réalité, Allah seul le sait, car Allah Azza wa Jalla dit « Laysa kamithlihi shay ». Il n'y a rien qui est comparable, il n'y a rien qui ressemble à Allah Azza wa Jalla. Donc pareil, ces malaïka qui portent le trône d'Allah Azza wa Jalla, eux aussi meurent, ce qui prouve bien que ce n'est pas notre logique hein, qui peut réellement comprendre comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a organisé à l'alamin les mondes. Bref, tout ça, pour dire que la fin, les signes de la fin des temps, c'est un changement de monde. C'est-à-dire, le monde qui a été créé par Allah pour faire son adoration, ou alors concernant les anges, une grande partie également pour faire son adoration, avec la différence qu'il y a entre l'adoration des êtres humains. C'est une adoration où l'homme peut choisir l'adoration des anges, où ils ont été créés pour le ibada, et par exemple le monde d'autres malaïka qui sont missionnés pour certaines choses, tout ça prend fin. Et tout retourne vers Allah. D'où le verset « وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ » Donc pour que on passe de cette étape de la création à la fin des créatures pour la résurrection, c'est pour ça qu'on fait dars, c'est pour ça qu'on fait isha, c'est pour ça qu'on fait fajr, c'est pour ça qu'on ne regarde pas telle chose, on ne fait pas le haram et on fait ce qui est obligatoire. Donc pour qu'on arrive à cette étape, il faut que le monde qu'Allah a créé depuis le monde que nous connaissons des êtres humains, qu'Allah a créé depuis Adam alayhi salam, pour que ce monde-là disparaisse, Allah aurait pu le faire disparaître d'un coup. Une explosion, une implosion, ou je ne sais pas quoi. Non. Allah a décidé qu'il y a des signes. Et les signes ont pour but de rappeler aux gens, de les réveiller. Attention, ce monde va bientôt prendre fin. Parce qu'en même temps, dans les textes, il est spécifié qu'à la fin des temps, il y aura de plus en plus de fitna. Et dites-moi si on ne les vit pas. D'accord? Quand on voit tout ce qui se passe, tant par rapport aux djinns, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui a trait, excusez-moi, aux passions charnelles, sexuelles et ainsi de suite, toutes les dérives que nous constatons dans la société, tout ce qu'on entend à travers les médias, toutes les perversions, je pense qu'on est en train de dépasser, on est en train de dépasser le peuple de l'autre, alayhi salam. Je pense que c'est bon là, on est en pole position. On a dépassé le peuple de l'autre, alayhi salam. Eux, ils se, excusez-moi le terme, contentés, entre guillemets, de se faire des câlins, hein, de s'aimer entre hommes, et ainsi de suite. L'homosexualité. Mais nous, on est partis plus loin. Mais dans le peuple de l'autre, alayhi salam, il n'y avait jamais eu des gens qui se disaient que je suis un homme, mais je suis une femme aussi. Je décide d'être une femme, malgré que j'ai les attributs d'un homme. Et vice-versa. Ça, ils n'avaient pas dit. Ils étaient pervers, ils faisaient des orgies de tout ce qu'on voulait, mais on n'allait pas jusqu'à dire que le mâle pouvait décider d'être femelle et la femelle pouvait décider d'être mâle. Est-ce que vous voyez un lion qui se prend pour une lionne? Ou une lionne qui se prend pour un lion? Est-ce que vous voyez une poule qui va chanter le matin? Ou alors un coq qui décide de couver l'œuf? C'est tout ça. Ça s'appelle des ashrat al-sa'a sughra. Et al-kubra, c'est vraiment imminent. On avait vu les définitions, les shurut. C'est quand tous les petits signes se sont réalisés, que là les grands signes vont commencer. Et quand un grand signe arrive, ça s'enchaîne. C'est pour ça qu'on s'était arrêté un petit peu sur Isa alayhi salam. Et on a vu la relation en trois autres grands signes. On a vu la relation avec Isa alayhi salam. Pardon, avec Ya'juj ou Ma'juj, parce que c'est lui qui va demander doua à Allah pour qu'il soit exterminé. On avait vu tout à l'heure la relation de Isa avec Ad-Dajjal, l'antéchrist, parce que c'est lui qui va le tuer de sa propre main. Et on avait et ce que j'avais demandé tout à l'heure, la relation entre Isa alayhi salam et Al-Mahdi, c'est qu'il va prendre le khilafa. Imam Mahdi sera le Amir al-Mu'minin. Et à cette époque, on reparlera de Amir al-Mu'minin, d'un guide pour les croyants. Et quand on dit al-Mu'minin, c'est les croyants du monde entier qui vont se réunir sous la bannière de al-Mahdi. Et donc, à un moment donné, la mission d'al-Mahdi prend fin. Et la mission d'al-Mahdi ne prend pas fin à sa mort, hein. La mission d'al-Mahdi prend fin lorsque le relais arrive. Et quel relais? La Nusra d'Allah par le biais de d'un de ses ulul azm, un de ses plus grands prophètes, Jésus, Isa alayhi salam, qui donc revient à la fin des temps. Donc, Isa alayhi salam, un rôle essentiel avec tous ces signes. Et comme on disait tout à l'heure, on avait fait une petite parenthèse, quand on voit toutes les fitaines, les turpitudes, les sources de d'égarements qu'il y a, ben on se rend compte que ce sont des ashrat al-sa'a, des petits signes de Qiyama qui avaient été annoncés il y a plus de 1400 années par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des choses que à cette époque les sahaba n'imaginaient même pas, le degré de perversion qu'on vit, la libération, enfin la légalisation, la banalisation plutôt de l'adultère, de l'homosexualité, de la consommation de l'alcool, de l'utilisation de l'usure, l'intérêt. C'était des choses que les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, n'imaginaient même pas, tellement ils vivaient un degré de piété. Mais le prophète l'avait annoncé, et c'est des choses qui ne sont pas apparues immédiatement non plus après les sahaba. C'est longtemps après. Et aujourd'hui, ce sont des choses que nous vivons de plein fouet. Et ces petits signes nous rappellent que les grands signes vont bientôt arriver. Mais attention, il y a des fois où avec les petits signes, pour certaines personnes, ceux qui ont la foi et qui ont un peu de connaissances religieuses, ce que nous essayons de faire ensemble, nous nous réveillons lorsque nous voyons les petits signes. D'accord ? Tandis que ceux qui n'ont pas de science religieuse, ceux qui n'ont pas iman bien sûr, mais ceux qui ont la foi mais qui n'ont pas de connaissances, qui se laissent aller, ils s'endorment avec les petits signes de Qiyama et ils se laissent bercer. Et il se laisse entraîner. Et il se laisse entraîner par les petits signes. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ce que nous, malheureusement, Allah musta'an, nous entendons de la part de beaucoup de personnes. Sachez que ce sont des gens qui se sont laissés entraîner par les petits signes. Quand une personne, exemple, hein, il veut faire un prêt pour construire une maison, pour acheter un appartement ou une voiture ou une pizzeria ou je ne sais pas quoi, il va faire un emprunt avec la banque à taux de 3% ou 4%, je ne sais pas quel taux, c'est quoi les taux en ce moment. Non, d'accord. Si quelqu'un fait un emprunt et il dit que mais tout le monde le fait, mais le commerce, ça marche comme ça, c'est pas mal intentionné, c'est pour développer. Quand une personne tient ce discours, c'est que la personne a déjà coulé. La personne a déjà sombré dans les ashrat al-sughra, dans les petits signes de Qiyama. Quand on voit un jeune homme qui prend la main d'une jeune fille et qui marche ensemble, qui s'embrasse et qui se fréquente, et si on fait une remarque, dit mais c'est pas ton problème, c'est my life, c'est ma vie, c'est mon problème, c'est mon choix. Et puis regarde, hein, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas contre cœur, ce n'est pas un viol, c'est de l'amour, ainsi de suite. La personne a déjà sombré dans les petits signes de Qiyama. Quand le prophète indique à la fin des temps, il y aura la banalisation du zina, de l'adultère. Donc quand quelqu'un a un discours qui banalise ce qu'il fait, tant par rapport au zina, à l'adultère, par rapport au riba, par rapport à l'intérêt, par rapport à la consommation d'alcool ou les autres choses que le prophète avait annoncées, c'est que la personne a déjà sombré dans les petits signes de Qiyama. C'est fini. C'est pas que c'est fini, mais que la personne a déjà été piégée dans les petits signes de Qiyama qui normalement doivent réveiller des cœurs avertis. Mais quand les cœurs ne sont pas avertis, ce sont des cœurs qui deviennent pervertis rapidement. Et donc ils sombrent, ils suivent le cours de l'humanité dans la dépravation. Maintenant, que dire si Dajjal arrive? Si avec les petits signes on est déjà chaos à terre, que dire si un grand signe arrive et nous percute? Le iman saute. Nasallallahu alayhi wa sallam wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que des gens, ils vont aller voir Dajjal par curiosité. Et ils vont perdre iman. C'est pour ça que le prophète a dit que, hadith lequel dit que si vous entendez parler de Dajjal, n'allez surtout pas le voir. Vous vous rappelez, on avait dit ça? N'allez surtout pas le voir. Parce qu'une personne va penser, et ça c'est ajib, et en même temps ça fait peur, une personne va être persuadée plutôt qu'il a iman de son cœur. C'est le cas de nous tous, oui ou non? On est persuadé qu'on a iman. Si j'avais lu un maqala, une parole magnifique sur, excusez-moi, sur Facebook dernièrement, quelqu'un avait mis une citation, dit que si nous voyons, si on avait, c'est au conditionnel, on voyait les sahaba de nos jours, on l'a lu ça? Hein, on aurait dit qu'ils sont fous, na'oudou billah. Tellement on aurait été surpris de voir des gens assidus, plongés dans l'ibad. On aurait dit que ce n'est pas des humains. Puis il continue, je ne sais pas, citation de, je sais pas, Imam Ahmad, je sais pas, mais quelqu'un de sérieux, hein, ce n'est pas un rigolo. Il dit que si les sahaba voyaient les meilleurs parmi nous, et là aussi, si c'est Imam Ahmad, je ne sais pas quoi, ça tient, il faut resituer à son époque, pas au XXIe siècle. Si les sahaba voyaient les meilleurs, les plus pieux parmi nous, ils se diraient que ceux-là, ils n'ont aucune havre fil akhira, ils n'ont aucune part dans l'au-delà. Tellement ils auraient considéré que, même si c'est les meilleurs parmi nous, que leur dévouement envers Allah est insignifiant, est insuffisant. Ils auraient considéré les meilleurs parmi nous comme n'ayant aucune part dans l'au-delà. Et s'ils voyaient les gens, le commun des mortels, c'est-à-dire le citoyen, le musulman lambda, ils se seraient dit que ces gens-là n'ont pas un iman, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas des ahlil iman. Ah, ça, c'est des choses qui font peur, ça s'interpelle. Et donc, on disait, qu'est-ce qu'on disait encore, subhanallah? On disait que oui, le prophète a dit, des gens, ils se persuadent qu'ils ont iman, et donc ils vont pas, ils veulent découvrir, hein, par curiosité, j'allais dire, voir Dajjal. Et quand ils voient les miracles que Dajjal accomplit, ils vont perdre iman, ils vont quitter Tawhid. Ils vont abandonner la ilaha illallah, ils vont accepter cet homme comme étant le ilah. Et les savants disent, c'est quelque chose de plausible, parce que, à notre niveau, il y a des gens qui n'hésitent pas à vendre le iman pour les avances d'une femme, à mettre de côté tout ce qu'ils ont comme acquis spirituel pour obtenir un peu d'argent avec un organisme de crédit, avec la banque ou autre chose, à mettre son iman de côté pour passer du bon temps avec ses amis, boire et ainsi de suite. C'est-à-dire que si quelqu'un est déjà prêt à faire passer ses pulsions, les shahawat, les plaisirs sur son iman, n'en parlons plus quand cette personne verra le plus grand fitna jamais créé. Et quand on dit de plus grand, et ça, le terme est important, c'est-à-dire depuis que Allah Azza wa Jal a créé la création, Dajjal, c'est le plus grand fitna. On pourrait se dire, mais plus grand fitna que Iblis? On va dire que Iblis insuffle, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, celui qui insuffle, en ce sens, dans les cœurs des gens. Iblis se contente, en guillemets, d'insuffler, de donner l'envie de faire le haram. Dajjal, il jouait pas écoulé, hein? Dajjal, il réveille de papa au moment que les morts. Il fait tiens, zot, zot, kabar. Il dit mon fils, lui c'est mon ilah, mon Dieu, considère-le comme mon Dieu, comme ton Dieu aussi. Il y a des miracles exceptionnels qu'Allah lui a accordé, bien sûr, le pouvoir. Il dit donc, si quelqu'un est prêt à brader son iman pour des plaisirs immédiats, pour des kaba'ir, pour des péchés, n'en parlons plus lorsque la personne verra Dajjal, assurément la personne va perdre iman. Donc, qu'on comprenne bien, mes chers frères, que apprendre, comprendre les signes de la fin des temps nous permet de rester ferme dans l'iman. C'est quelque chose d'essentiel. Autant lorsqu'on parle du qiyam, dans d'autres programmes, à Montreuil par exemple, on parle de l'au-delà. Et on n'arrête pas d'expliquer que plus on connaît l'au-delà, plus on s'éloignera des péchés, plus on accomplira des bonnes œuvres, plus on sera patient face aux difficultés, parce que on a compris qu'est-ce qui se passe là-haut, on a compris l'inversement des valeurs, qu'est-ce qui compte pour nous de ce dunya et qu'est-ce qui comptera réellement le jour de Qiyama dans l'au-delà. J'avais expliqué une fois, hein, je ne sais pas c'était où ça, à notre endroit, quand les êtres humains sont ressuscités le jour de Qiyama, pieds nus, non circoncis, nus et sans rien dans les mains, ça nous permet de réaliser qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte de l'au-delà et qu'est-ce qui ne compte pas. Et si je comprends qu'est-ce qui compte de l'au-delà Et qu'est-ce qui ne compte pas? Ben, je réalise qu'est-ce que je dois travailler dans ce monde pour que là-haut, j'ai ce qui me sera nécessaire. Alors, on n'a pas de chaussures, pas de vêtements, rien du tout, les mains vides, poche. Il n'y a même plus de poche, il n'y a plus de vêtements, rien dans les mains. Il n'y a pas un rond, un euro, voilà, chez. Pas de diplôme, pas d'argent, pas de grand nom de famille, ou Marji, ou je sais pas, et ainsi de suite. Il n'y a rien de tout ça. La seule chose qu'on a, c'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est Iman. Et la seule chose en dehors de la foi, quelque chose, on va dire, de palpable, c'est Kitab an yalqahu manshura, le livre qu'Allah Azza wa Jal donnera à chaque individu. C'est ton livre. Parce que c'est le pronom affixe, c'est Iqra kitabak, c'est-à-dire kitabaka. Lis ton livre, c'est-à-dire le livre de chacun, le livre que tu as écrit avec tes a'mal, avec tes actions. C'est la seule chose qu'il y aura le jour de Qiyama, depuis la résurrection jusqu'à l'accès au paradis, ou alors qu'Allah nous protège l'entrée vers l'enfer. Donc, si je réalise que la seule chose que j'aurai dans mes mains, c'est mon livret d'action, et la seule chose que j'ai dans mon cœur, c'est mon iman, et que même mes parents, ma femme, mes enfants, voilà, il n'y a rien qui me sera d'un quelconque profit, moins encore mes diplômes, BTS, doctorat, je ne sais pas quoi ça, ni même mon argent, compte en banque, la BNP en Suisse, la carte Gold, carte American Express, Madagascar Express, voilà, ça ne sert strictement à rien. Lorsque je réalise tout ça, ben, la logique, c'est quoi? C'est que si je suis conscient que là-haut, c'est ni le diplôme, ni le nom de la famille, ni l'argent, ni tout ça, ça me servira à quoi que ce soit, mais Iman et Amal, ben, de ce dunya, je travaille quoi? Iman et Amal. Alors que si je consacre 70% de mon temps ou 80% de mon espérance de vie à gagner de l'argent, je me rends compte que je suis en train de perdre ma vie. Je perds mon temps, oui, je gaspille ma vie, je gaspille ces années. Donc ça sert, connaître le-delà, ça nous permet de mieux vivre ce dunya et savoir pourquoi j'obéis à Allah, pourquoi je dois rester éloigné du haram et pourquoi je dois être patient dans les moments de difficulté. Quand on voit les textes qui annoncent les récompenses pour les patients, les endurants, ainsi de suite. Connaître les signes de Qiyama, qui est le passage entre ce monde et le monde de l'au-delà, ça me permet de rester éveillé, de rester conscient, de ne pas sombrer comme le reste de la population qui sombre dans les plaisirs, dans les pulsions, dans les passions, parce que ce sont des choses attrayantes. Ça nous permet de réaliser que tout ça, ce sont des petits signes de Qiyama qui nous endorment et qui nous déconnectent peu à peu du iman. Et si par malheur le grand signe apparaît alors qu'on est déjà endormi par les petits signes de Qiyama, c'est le iman qui saute complètement. Et qu'Allah nous préserve. Je pense qu'on a 28 minutes. On devait réintroduire un petit peu le but pour lequel on avait vu ça. Allez, juste recadrer un peu en 5 minutes. Qu'est-ce qu'on avait vu sur Ya'juj ou Ma'juj? Parce qu'on avait terminé avec Dajjal, on avait terminé avec Isa alayhi salam. Mais en même temps, on devait voir la mission de Isa, l'avant-dernière des missions de Isa alayhi salam, c'était faire en sorte d'exterminer et d'amener les musulmans en lieu sûr et exterminer Gog et Magog par les doigts qui va faire Allah Azza wa Jal. Ce qu'on avait vu, on avait vu tout d'abord que Gog et Magog, c'est un peuple d'êtres humains, insan, des êtres humains, et non pas des monstres ou autre chose. On a vu qu'ils vont venir à la fin des temps. Et là, on a vu c'est quoi la fin des temps, à quel moment exactement. On avait vu la description physique, on avait vu l'organisation de la société chez les Gog et Magog. On avait vu également, on avait essayé de voir à peu près dans quelle région du monde ils se trouvent. On avait vu également, après on avait fait une parenthèse, on s'était arrêté à là, et puis on a ouvert une grande parenthèse sur la personne qui les avait emprisonnés. La personne qu'ils avaient éloignée des autres humains, des autres êtres humains, des autres populations. On avait parlé donc de Dhul-Qarnayn. On avait essayé de comprendre qui est Dhul-Qarnayn. Alexandre le Grand? Du tout. On avait vu pourquoi non. On a vu que c'était par rapport, ça c'est une étude, une recherche qui a été faite par un savant, ça rapprochait d'un des fils d'un des pharaons. D'accord? Parce qu'il a vécu à l'époque de Moussa alayhi salam, et pas mal de dalil, pas mal de, on va dire, de signes qui correspondaient à la description de cette personne qui était le seul de la dynastie de tous les empereurs d'Égypte à être monothéiste et dont le sarcophage n'a jamais été retrouvé et qui avait voué un culte différent du culte du soleil polythéiste des autres empereurs d'Égypte. Donc on avait essayé déjà de déterminer qui est Dhul-Qarnayn. Ensuite, on s'était embarqué pour un grand voyage. C'était mieux que Ushuaïa ou que, je sais pas comment ça s'appelle, le Talassa plutôt. On était parti vers le Maghrib al-Shams, vers le couchant. Et on avait essayé de déterminer à quel endroit et que ça devait toujours être en rapport avec le soleil. Parce que c'était quelque chose qui était idolâtré par les Égyptiens et que lui voulait casser le mythe du soleil qui est une divinité ou autre chose. Donc on avait déterminé où à peu près se situe Maghrib al-Shams, qui était donc la première étape du voyage de Dhul-Qarnayn avec les preuves qui amenaient vers cette région du monde. Ensuite, on avait fait un deuxième voyage vers Matla' al-Shams, vers le Levant. On avait vu que c'était à l'autre extrême, donc c'était vers plutôt l'océan Pacifique. On a vu que c'est les premiers endroits où le soleil se lève, ou le pays où il y a les premiers rayons du soleil tous les jours. Ce qui nous reste à voir pour terminer avec ces trois étapes du voyage de Dhul-Qarnayn, c'est Bayn as-Saddayn, cet endroit où Dhul-Qarnayn a été donc sollicité par cette population qui était importunée par les Gog et les Magog, par Ya'juj ou Ma'juj. Alors ce qui est intéressant en deux minutes, c'est de savoir que quand on utilise le mot arabe Ya'juj ou Ma'juj, le mot Ya'juj a un sens également dans la langue chinoise. Donc on va, à travers là, juste une petite introduction, on va voir que la population qui a sollicité Dhul-Qarnayn, c'était les Chinois. D'accord ? Et les grands ennemis des Chinois à cette époque, et on va voir, si on a un peu de courage, on va comparer également les dates pour voir que ça correspond à la venue de cet homme, Dhul-Qarnayn, hein, si on parle de la même personne, d'accord, et ça correspond à quel empereur, à quel empire de Chine, parce que là-bas, c'était pas empire. On va voir, ça correspond exactement à tel empire, et on va voir, subhanallah, il y a pas mal de choses qui nous ramènent vers la conclusion de ce savant. On va voir que le premier barrage militaire dans l'histoire de Chine a été construit par une personne qui était étrangère à la civilisation chinoise à telle époque. Alors, il y a pas mal de détails qui nous ramènent vers la conclusion. Et que donc les grands ennemis du peuple chinois, c'était Ya'ju, d'accord ? Ya'ju, c'est les populations d'Asie, et Ma'ju, c'est les populations de Khayl, de Hisan, on va dire, de chevaux, des populations qui vivaient avec les chevaux. Et on va voir, à travers la recherche qui a été faite par le savant, hein, dont on suit le livre depuis pas mal de temps, ces deux grands ennemis, c'était les populations mongoles et les populations de Sibérie. Et on va voir avec un grand combattant, je ne sais pas si je n'écorche pas son nom, qui s'appelait Jin Khan, exactement. Jazakallah, on a un historien et un professeur d'histoire aussi, à ne pas confondre avec, comment il s'appelle le coréen là, qui danse bizarrement? Hein? Bref, je sais pas pourquoi ça me revient. Quand on dit Jin Kin Khan, je pense à lui, ce qui fait une chanson un peu bizarre là. Aucun rapport, bien sûr. Il connaît, il veut pas dire. D'accord? Donc, on va voir que c'était un peuple sanguinaire. Comment le descendant avait envahi, oui, j'ai dit Mongolie, Sibérie et Tatar, d'accord? Et on va voir comment est-ce qu'ils avaient anéanti ce qui était considéré comme la plus belle ville de la civilisation musulmane à l'époque. C'est, question pour un champion, c'est ça,
Samarkand.
Comment ils ont détruit, selon certaines sources, il y avait eu plus de 100 000 personnes qui ont été égorgées à Samarkand. Donc par les Tatars, c'était vraiment un peuple sanguinaire, un peuple de barbares, et qui déjà à leur époque importunait les Chinois, et donc ils avaient reçu la visite de cet étranger. Ils avaient demandé, contre une rémunération, de construire un barrage, et par rapport au Sourd Kahf, ils avaient dit que ce qu'Allah m'accorde, c'est mieux, j'ai pas besoin de votre argent. Et on va voir la construction de ce barrage, d'accord, qui n'est pas la muraille de Chine, ça on avait déjà expliqué, et comment il a mélangé le fer avec du cuivre, je sais pas quoi, comme décrit dans le Coran. On va essayer de voir. On va pas s'attarder parce que c'est assez long à expliquer, mais la prochaine fois, on va vraiment voir en 8 points qu'est-ce qui nous permet d'aller vers cette conclusion que le peuple, le dernier lieu visité par Dhul-Qarnayn, c'était l'Asie, et que c'est des Asiatiques qui lui ont demandé de l'aide contre ces deux populations qui n'arrêtaient pas de les envahir. Inch'Allah, on verra ça la prochaine fois. Et ensuite, je pense qu'on pourra reprendre le côté plus spirituel, plus religieux de Ya'juj et Ma'juj, avec une dernière petite recherche pour essayer de situer où se trouve le barrage, la barrière, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Et puis on reviendra vers le déroulement des signes de Qiyama, comment est-ce qu'ils vont casser, comment est-ce qu'ils essaient régulièrement et comment ils vont un jour réussir à casser ce barrage construit par Dhul-Qarnayn, et quels seront les dégâts qu'ils vont causer de ce dunya, et comment Isa alayhi salam va intervenir, comment est-ce que les musulmans recevront, quel ordre les musulmans ont reçu de la part d'Allah concernant Gog et Magog, affrontement ou non, djihad ou non contre Gog et Magog. On va voir qu'il n'y a pas de lutte contre Gog et Magog, et comment ils vont oser défier Allah Azza wa Jal, et c'est là qu'Allah Azza wa Jal va les détruire, et avec ça il y aura le doigt de Isa alayhi salam. Et après ça on aura terminé, on va dire, les plus grands signes de Qiyam. Qu'Allah Ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, hein, de méditer sur le sens de ce qu'on a eu tawfiq de dire, et de bien réaliser l'importance de connaître les petits signes de Qiyam pour ne pas sombrer dans ces petits signes, et également pour pouvoir enseigner à nos enfants que tout ce qu'on est en train de voir, tout ce qu'on est en train d'entendre autour de nous, ce sont des choses annoncées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des choses contre lesquelles le prophète alayhi salatu wa sallam nous a maintes et maintes fois mis en garde. Donc attention de ne pas tomber dans les erreurs que les autres personnes, hein, ils sont en train de faire. Qu'Allah nous protège nos enfants, et nous accorde ilm nafir, la science qui est profitable pour nous protéger du haram et nous amener vers le droit chemin. Tawfiqillah billah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifoun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.